Il est 6h40 et c'est l'heure du journal des idées avec vous, Jacques Meunier. Bonjour Jacques.
Bonjour Clara Lecoq-Réal.
La loi Copé-Zimmermann de 2011 contraint les entreprises de plus de 500 salariés à afficher une proportion de femmes au moins égale à 40% parmi les administrateurs. Jacques, qu'en est-il aujourd'hui ?
La France, Clara, qui est l'un des rares États avec la Norvège, l'Italie et la Californie à avoir adopté de tels quotas, peut se prévaloir du plus fort taux de féminisation des conseils d'administration dans les grandes entreprises, passé de 8,5% en 2007 à 43,6% en 2019. Comme le montrent Maëlys Kider et Timothée de Roglaudre dans Le Monde diplomatique, cette loi est le fruit du lobbying des réseaux féministes du CAC 40 qui ont essaimé depuis les années 2000 autour du Women's Forum for the Economy and Society, surnommé le Davos des femmes. Ce féminisme de marché qui promeut l'accès des femmes aux plus hautes fonctions n'est pas dénué d'ambiguïté. Proche du pouvoir, notamment depuis l'élection d'Emmanuel Macron qui a fait de l'égalité femmes-hommes la grande cause de son quinquennat, leur influence a tendance à évincer les autres associations féministes, tandis que leur activisme permet à des multinationales peu soucieuses des droits des salariés de redorer leur image. Des entreprises de plus en plus nombreuses à s'offrir ainsi une vitrine féministe. La presse féminine est de la partie. La promotion de dirigeantes est devenue un thème récurrent, ainsi qu'une manne financière. Les affinités électives de ces réseaux du patronat féminin avec la Macronie ont contribué à marginaliser les syndicats de salariés sur la question de l'égalité professionnelle, observent les auteurs de l'enquête, qui soulignent que si la féminisation des sphères du pouvoir est en bonne voie au bas de la pyramide, en 2018, 78% des salariés à temps partiel étaient des femmes. Face à cette politique d'égalité à deux vitesses, certaines associations satellites soutiennent l'entrepreneuriat pour sortir de la précarité, car la féminisation des sphères dirigeantes n'est pas mécaniquement un levier pour l'égalité professionnelle, rappelle la politiste Marion Rabier, qui évoque le cas de cet habitué du Women's Forum, se plaignant de ses deux secrétaires en congé maternité et lui confiant son intention de recruter à l'avenir des employés plus âgés. L'argument central du Davos des femmes n'est pas l'altruisme ou la responsabilité sociétale des entreprises. Il est purement économique. L'égalité contribuerait à la croissance au prix d'une sélection à l'excellence appuyée par des banques comme Goldman Sachs, privilégiant les entreprises comptant au sein de leur conseil d'administration au moins une femme ou une personne issue de la diversité. Un féminisme soluble dans le néolibéralisme qui fait résonner une petite musique essentialiste, relève Céline Mouzon dans le dernier numéro de la revue L'économie politique, un dossier sur le féminisme à l'assaut de l'homo economicus. Et de citer les propos de Christine Lagarde, si Lehman Brothers s'était appelé Lehman Sisters, la situation des banques en 2008 aurait été bien différente. C'est l'argument des apôtres du management féminin qui voit dans la promotion des femmes et de la diversité un facteur de performance. Cela dit, une approche féministe de l'économie devrait introduire du pluralisme dans ce champ du savoir. À titre d'exemple, Céline Bessières et Sybille Golac s'intéressent aux inégalités de patrimoine qui sont passées entre 1998 et 2014 de 9 à 16%. Les sociologues, auteurs d'une enquête récente publiée à la Découverte sous le titre « Le genre du capital, comment la famille reproduit les inégalités », identifient plusieurs facteurs, dont la production domestique qui contribue à l'enrichissement mais ne se retrouve pas dans les successions, ou bien le traitement différencié des enfants dans la transmission du patrimoine. Essentialisme encore, l'historienne Fanny Bunion évoque dans Libération la façon dont les médias parlaient dans les années 70 et 80 des femmes engagées dans la fraction Armée Rouge ou Action Directe, déviantes moralement plutôt que révolutionnaires, en gommant la dimension politique de leur engagement. Les communardes ont également été jugées ainsi, un millier d'entre elles en conseil de guerre. On interroge leur vie privée, leur physique, leur rapport aux hommes, à l'alcool. La marche des femmes sur Versailles à l'aube de la Révolution ouvre la très complète et illustrée histoire féminine de la France par Yannick Ripa. Versailles, où siège aussi l'Assemblée en attente de la ratification royale de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Si leur revendication est nourricière, la rareté du pain et son prix, leur ambition est politique, affronter le roi.